Et c'est une crise, c'est dans 77, 78, je crois que les punks commencent à diffuser leur slogan
En
No Future,
76, exactement.
76, No Future. Bon, c'est le commencement de la fin, si je puis dire, hein, en tout cas de la fin d'une époque, ce que j'appelle, moi, la consommation heureuse, parce que c'est lié à la consommation. C'est lié au développement d'un monde industriel qui a l'air absolument sans limite, qui conduit d'une manière ou d'une autre, que ce soit par le libéralisme, le socialisme, ou peu importe, mais tout le monde pense que de toute façon on va aller vers un monde meilleur. Les années 70, c'est le sentiment qui apparaît que peut-être que non. Et en effet, une grande partie de la jeunesse dont je fais partie commence à désespérer un peu. Et moi, oui, c'est vrai que j'avais un comportement assez suicidaire, j'étais un peu toxique aussi. J'étais pas toxicomane, mais je pratiquais pas mal des substances hallucinantes, enfin, disons, des psychotropes ou des choses comme ça, et je picolais pas mal aussi, je dois dire. Et voilà, donc, oui, ces braquages de banque ont été provoqués par diverses circonstances, dont clairement une tendance suicidaire, c'est
Alors à
sûr.
cette époque-là, Bernard Stiegler, vous étiez à Toulouse, vous teniez un bar musical, hein, c'est de 76 à 78, et c'est à ce moment-là où effectivement votre agence bancaire vous refusant à découvert, parce que c'est difficile de tenir un bar, c'est là que vous allez passer à l'acte. Mais quelle musique passiez-vous dans ce bar?
Du
C'était un bar
jazz.
musical?
Du jazz, essentiellement. Pas seulement, je passais un peu aussi Lou Reed, je passais un peu les Doors, toutes les choses comme ça. Mais j'étais surtout, moi, un amateur de jazz. J'étais même plus qu'un amateur. J'étais un passionné absolu de jazz. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai monté ce truc. C'était pas pour faire du commerce de limonade ou de bière, ça m'intéressait pas du tout. C'était pour pouvoir faire partager mon amour de la musique aux autres. Parce que derrière ce comptoir, je passais des disques. J'allais dans un magasin qui s'appelait le magasin Sirène, à Toulouse, pas tous les jours mais presque, acheter des nouveautés. Et quand je trouvais un bon truc, bah, je faisais ce qui se fait aussi, ce qui a été inventé sur Europe 1 d'ailleurs, hein, avec les émissions. Il y avait une émission de jazz sur Europe 1, naguère, que j'écoutais quand j'étais jeune, dans les années 60 justement. Et qui consiste à faire écouter aux autres, faire découvrir aux autres. J'adorais ça. Donc voilà, j'ai fait ça pendant plusieurs années. J'ai même fait venir des musiciens. Je passais pas que des disques. Je faisais venir aussi des groupes de jazz. Je faisais venir des gens excellentissimes. Et Toulouse était une ville où le jazz était extrêmement apprécié par les étudiants. Donc ce bistrot marchait très bien.
Alors à la même époque où vous étiez à Toulouse, faisiez écouter du jazz, où Toulouse aimait le jazz, mon invité d'hier, Franck Darcel, lui était à Rennes, et Rennes à la même époque, 76-78, est en train de devenir la capitale du rock. En France, c'est là que va naître le groupe mythique fondé par Franck Darcel, les Marquis de Sade. Alors je lui ai demandé pourquoi est-ce que ça s'est passé à Rennes à cette époque-là, ben, on va écouter tout de suite sa réponse.
Quand on était étudiant, on écoutait plus en Bretagne de musique anglo-saxonne qu'ailleurs.
Parce que
Il
c'était
y
plus près.
avait, mais je crois que tout simplement, moi j'avais des amis qui prenaient le ferry à Saint-Malo régulièrement, qui ont ramené les disques des Clash avant que la presse parisienne n'en parle finalement.
Les Clash, c'était
Il
un
y a,
groupe de punk à
voilà, et il y
l'époque.
a aussi, mais ça c'est vraiment la proximité géographique qui veut ça, le fait que sur la côte nord de la Bretagne, on pouvait écouter la BBC, certaines chaînes de la BBC particulières très facilement à l'époque, et enfin, et tout un tas de radios anglaises. Mais je trouve que la Bretagne avait une éducation rock'n'roll particulière. Ouais. Surtout quand on a tourné après avec Marquis de Sade, on s'est rendu compte. Bon, après, il y a eu Lyon, le punk lyonnais, il y a eu le rock bordelais un peu plus tard. Mais en Bretagne, il y avait vraiment une pénétration de la culture anglo-saxonne, en termes musicaux, plus prégnante qu'ailleurs, quoi.
Bernard Stiegler, pourquoi et comment avez-vous échappé, vous, au rock? Au contraire, aimer le jazz. On en revient à ce que vous disiez tout à l'heure, à ces comportements culturels. Alors là, c'est la culture, c'est l'industrie culturelle, c'est l'industrie du divertissement. Mais elle est importante dans votre philosophie.
Ah
Alors
oui,
comment,
tout à
pourquoi
fait.
est-on jazz? Pourquoi est-on rock? Est-ce que ce ne sont que des différences géographiques, comme ça a l'air de dire? Vous avez l'air de le dire tous les deux, finalement?
Ah, il y a beaucoup de monde à Toulouse qui écoutait du rock
Bien
aussi, hein,
sûr.
et d'ailleurs l'écume des jours s'appelait comme ça, ma petite boîte, on passait aussi du rock quand même. Mais c'est vrai que moi je n'étais pas très rock, et en général les gens, ça a peut-être changé un peu maintenant, mais à l'époque, les gens étaient soit jazz, soit rock. C'est difficile pour moi de répondre à cette question parce que elle est très compliquée en réalité. Mais je dirais que pour moi le jazz, c'était une musique des Noirs américains, et que je m'identifiais énormément aux Noirs américains et à leur combat. Alors le jazz, j'y suis entré par accident là aussi, hein. C'est parce que mon oncle, le frère de mon père, tout simplement, avait quelques disques excellents d'Armstrong, de Malia Jackson, etc. Et c'était chez ma grand-mère, il les avait laissés sur place, et puis je me suis mis à les écouter comme ça.
Donc vous n'étiez pas victime d'un marketing quelconque. C'est arrivé
Non, là, oui,
parce que c'est votre méfiance depuis le début, c'est que nous sommes tous victimes du marketing.
par ailleurs, à l'époque où j'ai commencé à écouter du jazz, je devais avoir 10-12 ans, hein, ça n'existait pas encore tant que ça, ce marketing agressif-là. C'était beaucoup plus soft quand même, hein. Donc on était beaucoup moins exposés à ça. C'est monté au cours des années 60, justement. Avec en plus ces phénomènes extraordinaires qu'ont été les Beatles et toute cette pop music, etc., qui est devenu un marché colossal. Et un phénomène générationnel qui a réorganisé toute la société, entre le rapport entre les générations. J'ai eu aussi, moi, tendance à me poser. Tout ce qui est phénomène de masse me fait toujours peur, un petit peu d'instinct, je dirais. Donc, à partir du moment où tout le monde écoutait les Beatles, s'arrachait les cheveux, bon, j'avais tendance à essayer de me tenir un petit peu à l'écart de ça. Même si j'aimais bien les Beatles, mais tout ce phénomène massif social m'effrayait. Quoi qu'il en soit, pour moi, le jazz, c'était lié à une réalité sociale. Une réalité sociale. Que je trouvais. Il faut dire qu'à cette époque-là, j'étais très très à gauche, à l'extrême gauche. Bon, disons que j'étais communiste, quoi. Même si j'ai été gauchiste à un moment donné, ensuite plutôt parti communiste, etc. Et la question du peuple, et de la liberté du peuple, de l'expression du peuple, etc., m'importait énormément. Et je voyais dans les jazzmen une extraordinaire force d'affirmation. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un jazzman? Il y a des jazzmen blancs, bien entendu, hein, mais qui est parfois excellentissime, hein, mais souvent juif, cela dit d'ailleurs, hein, en général, c'est pas
Vous
le
pensez à
wasp,
qui? À
quoi,
Benny
hein.
Goodman, à Lee
Par
Konitz?
exemple, Lee Konitz, pour un très très grand de la côte ouest, bon. Mais il y en a beaucoup en réalité. Aussi Bill Evans ou Gil Evans ou des gens comme ça. Cela étant, le jazz, c'est quand même une musique noire. Et ce que je trouvais extraordinaire dans cette musique noire, et que j'entendais à même les notes de cette musique, c'est que c'était une musique qui était née dans les champs de coton, née du blues, des esclaves, et donc des gens les plus bas dans la société qui se sont mis à représenter le plus l'Amérique, parce que le jazz a été l'ambassadeur de l'Amérique. Quand Hitler condamne cette musique, quand on voit comment l'armée américaine a utilisé les rythmes de jazz pour pénétrer dans la guerre psychologique de la Deuxième Guerre mondiale contre le fascisme et contre le nazisme, les musiciens de jazz, c'est vraiment fascinant. Ce sont des gens qui, au départ, sont des rebelles contre l'ordre qui leur est imposé par la domination des blancs sur les noirs. Et voilà, donc je trouve formidable, moi, que cette lutte qui a été menée par ces musiciens passe par la musique, et que on voit à ce moment-là comment la culture, au sens le plus fort, est au cœur de la vie quotidienne des gens dans leur lutte.
Bernard Stiegler, on a tendance à dire souvent, quand on parle de notre époque, que c'est une époque où l'individualisme ne cesse de monter. Vous avez l'air, au contraire, vous, de la voir comme une époque où nous sommes de plus en plus massifiés. Alors, est-ce que c'est incompatible d'abord et...
On confond individualisme et égoïsme. Moi, effectivement, je pense que nous sommes dans une société extrêmement grégaire. Moi, je suis individualiste. Mais individualiste, pour moi, ça veut dire qui prône l'épanouissement de l'individu. Et donc, de l'individu psychique, c'est-à-dire vous et moi, nous sommes des individus psychiques, ou de l'individu collectif. Un pays, une équipe de foot, mon équipe dans le travail, parce que nous sommes des êtres psychiques et sociaux. Et donc il y a des individus sociaux. Être individualiste, c'est vouloir se battre pour que l'individu puisse s'affirmer au maximum. Et c'est ça que j'appelais tout à l'heure l'existence et la consistance, le désir. Je crois que notre société n'est pas du tout individualiste. Notre société développe l'égoïsme. C'est pas du tout la même chose. Regardez les cochons dont je vous parlais tout à l'heure. Rien de plus égoïste qu'un cochon. Mais rien de plus grégaire qu'un cochon.
Grégaire, c'est le fait qu'on fait tous pareil,
Voilà,
qu'on
on se comporte
imite,
comme un
on
troupeau.
imite, oui.
Alors on dirait oui, le mouton est plus grégaire. Bon, mais, le, je pense que c'est une illusion et un matraquage idéologique qui cherche à nous faire croire que nous vivons à l'époque de l'individualisme. Non, nous vivons dans l'époque de l'isolement. C'est pas du tout la même chose. Nous avons de moins en moins de relations sociales, donc nous pouvons de moins en moins être des individus épanouis, parce qu'un individu épanoui s'épanouit dans le social. Les relations que nous avons ne sont plus des relations sociales. Ce sont des relations calculées, contrôlées par des sociétés de services, par des formalisées, formatées, et ce sont des relations qui nous privent d'une vie sociale. Et c'est pour ça que nous avons le sentiment que ça va mal. Dans la télécratie contre la démocratie, à un moment donné, j'analyse l'enquête du Cevipof qui a été publiée l'année dernière, au mois d'avril, et qui révélait que 76% des Français considéraient que la jeunesse française avait beaucoup moins d'avenir que cette génération, et faisait apparaître un véritable désespoir des Français. Pourquoi est-ce qu'il en va ainsi? Comment se fait-il qu'à une époque où il y a telle puissance technologique, industrielle, scientifique, absolument incroyable,
À tel confort aussi.
et en principe à tel confort. Finalement, les Français, mais pas seulement les Français, hein, en Chine, 15% de la population chinoise est en dépression nerveuse, c'est le chiffre officiel du ministère de la Santé de Chine, de Pékin. Ça va mal partout, hein, aux États-Unis, ça va très très mal. Hein. Vous avez des enfants qui sont sous Prozac à moins de 5 ans. Donc les dysfonctionnements mentaux, ça ne s'applique pas que au degré zéro de la pensée qui frappait les barbares qui ont tué Ilan Halimi, ça s'applique à énormément de gens. Eh bien, il en va ainsi parce que nous vivons dans une société qui a détruit les relations sociales. Et nous vivons de plus en plus dans la peur. Parce que nous savons que sans cette filia dont je parlais tout à l'heure, qui crée des liens entre les individus, une
Cet
solidarité,
amour,
cet
cet amour.
amour, qui est la condition de la société est très très mal partie. Donc nous sommes confrontés à ce problème-là, et je crois que ça ne pourra pas durer. Je pense que nous atteignons des limites, d'autant plus que, par ailleurs, des problèmes, je dirais, de passage aux limites écologiques, économiques, etc., se posent. Nous savons très bien que nous ne pouvons pas continuer à nous comporter dans la consommation, par exemple, de CO2, enfin, de la production de CO2 par la consommation d'hydrocarbures, comme nous le faisons. Or, ça ne nous rend pas heureux. Parce que pourquoi est-ce que nous consommons tant? En fait, est-ce que ça rend heureux de consommer? Non. Ce qui rend heureux, c'est pas de consommer. La consommation, c'est ce que j'appelais la subsistance au début. Ce qui rend heureux, c'est d'exister, c'est pas de consommer. Mais nous consommons parce que la consommation détruit nos modes de vie et nos existences, et nous consommons de plus en plus pour combler le manque de vie. Et à partir de là, nous sommes pris dans un cycle addictif. Nous devenons intoxiquer la consommation. Il faut aujourd'hui élever l'intelligence collective pour retrouver la possibilité d'un mode de vie plus équilibré et pour être capable de faire face aux énormes problèmes de la planète.
Merci Bernard Stiegler pour cette leçon de philosophie en direct, donc cet après-midi sur Europe 1. Vous venez de publier La télécratie contre la démocratie, c'est chez Flammarion.